informé en écoutant Que Québec se lève.
Avec Myriam Segal, Pascal CV et Alexis Sanson.
Jusqu'à 10h, vous écoutez Que Québec se lève.
Pour
FM 93. Ça me parle. Ça me parle.
Je vais essayer de vous dire ça délicatement, mais c'est la dernière journée d'été.
C'était délicat.
Apple invente Arcade, vraie révolution ou encore un gadget d'une compagnie Control Freak? À quoi servent les tests physiques en éducation physique? On va peut-être avoir la réponse. Le vapotage, ni Dieu ni diable. Et Daniel Boudreau et les autos, il vient répondre à toutes vos questions entre 9h et 10h.
Jusqu'à 10h, vous écoutez Que Québec se lève.
Que Québec se lève au FM 93.
FM 93, ça me parle.
Aux nouvelles, Pascal.
Oui, une conductrice en état d'ébriété a percuté de plein fouet une maison avec sa voiture vendredi soir. Les policiers se sont rendus vers 22h dans un quartier de Maison Mobile à Château-Richer pour constater l'accident. La Sûreté du Québec avance que la femme en question aurait perdu la maîtrise de son véhicule pour aller foncer sur une voiture stationnée et ensuite sur la résidence. Heureusement, personne n'était dans la maison au moment de l'impact. La conductrice et son passager ont subi des blessures mineures. L'automobiliste a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies. Près de 500 employés de la CEPAC sont en grève depuis hier, perturbant les activités de chasse. Toutes les réserves phoniques sont touchées par le débrayage, et ce jusqu'à jeudi. Cependant, tous les parcs de la CEPAC demeurent ouverts au public, quoique certains services pourraient être affectés. Les négociations entourant le renouvellement de la convention collective des employés de la CEPAC sont rompues depuis mercredi soir. Les positions des parties semblent irréconciliables.
Si je veux aller marcher dans le parc de la Jacques-Cartier, est-ce que je peux?
Aucun problème.
Merci.
Et finalement, contrairement à Justin Trudeau du Parti libéral et Andrew Scheer pour les conservateurs, les autres chefs du parti n'ont pas pris congé hier. Et François Blanchet du Bloc québécois en a profité pour réclamer le retour du programme d'aide à la rénovation éco-énergie. Elisabeth May du Parti vert a indiqué qu'elle souhaite accorder du financement aux organismes communautaires dans leur lutte contre la crise des opioïdes. Et le chef néo-démocrate Jack Meeting a pour sa part présenté les engagements de son parti en matière de lutte au racisme systémique.
Le Canadien...
Est-ce qu'il y a du racisme systémique?
Je suis journaliste quand je lis le bulletin de nouvelles.
Le Canadien de Montréal demeure parfait en match préparatoire grâce à une victoire de 4-0 face aux Sénateurs d'Ottawa. À son premier départ, Keith Kincaid a signé un jeu blanc. Le prochain match, c'est lundi contre les Maple Leafs de Toronto. Au football universitaire, après avoir obtenu le départ lors des trois premiers matchs de la saison, le quart arrière du Rouge et Or, Samuel Chénard, va débuter le match sur le banc. C'est le jeune quart Thomas Bolduc qui va obtenir son premier départ face à McGill cet après-midi, parce qu'on ne peut plus les appeler les Redmen. Le match est à 13h au stade TELUS. Et d'ailleurs, parlant de football universitaire, les Stingers de Concordia ont remporté leur première victoire en plus d'un an hier, avec un gain à l'arraché en fin de match face au Vert et Or de l'Université de Sherbrooke. Et en F1, Charles Leclerc chez Ferrari continue sur sa lancée. Troisième position de tête, il va partir de la première place ce matin au Grand Prix de Singapour. Lewis Hamilton sera deuxième, Vettel troisième. Et Lance Stroll doit se contenter d'une 16e place sur la grille.
À la météo, d'abord, je vous ai dit que c'était la dernière journée de l'été. Demain matin, sur le plan astronomique, l'automne va vraiment commencer à 3h58 demain matin. Donc, à partir de demain, on est en automne sur le plan astronomique.
Ah, c'est vrai, je pensais que tu parlais des températures, mais c'est,
non.
Vraiment, vraiment l'automne.
C'est scientifique, c'est l'équinoxe. L'équinoxe, c'est-à-dire le moment où la durée du jour et de la nuit sont égales.
Ouais.
C'est demain matin, 3h58, pour être précise.
Bon, on va sortir les horoscopes, on vous lit ça dans quelques instants.
Ben non, pas astrologique, astronomique. Bon.
La même affaire.
J'ai rien à l'air à croire à tout ça.
Ben oui, l'équinoxe est scientifique.
Non, à l'astrologie.
Non, tu es malade, toi. OK, 25 degrés, c'est le maximum qu'on va atteindre aujourd'hui. Généralement ensoleillé, l'ennuagement va arriver tard cet après-midi avec des vents qui vont rafaler jusqu'à 50 km/h. Ce soir, cette nuit, c'est nuageux, 60 % de probabilité d'averse, et en fait, toute la semaine, là, lundi, mardi, mercredi, on annonce des averses. On va travailler ma mâchoire un peu. On dirait que j'ai des mots qui essayent de se glisser dans d'autres mots ce matin.
Fait que là, Pascal, c'est quoi l'horoscope du jour de Myriam?
Mais c'est quoi vos signes? Myriam, ton signe?
Sagittaire.
Sagittaire. Bon, parfait, je te trouve ça. Je
j'y pense.
Et là, dans le journal, là, t'es un peu...
Ah oui, t'as bien raison.
Ne rate jamais sa cible.
Ben, moi, je...
Sagittaire. Bon, ben, parler de niaiserie m'a parlé d'affaires importantes, OK?
Bon. Ah, mais...
Il y a des articles contradictoires au sujet du vapotage ce matin dans les journaux. Les articles contradictoires, c'est que il y en a qui disent que le vapotage, c'est l'enfer, et d'autres qui disent que le vapotage, c'est parfait, ça permet aux gens d'arrêter de fumer. Et le plus intéressant, je pense, se trouve dans le Journal de Québec, où là, c'est Mathieu Morissette, qui est un docteur, chercheur, et qui dit, c'est les deux en même temps. Pour arrêter de fumer, le vapotage est efficace. Il donne des chiffres assez précis. Là, le vapotage a permis à 18% des participants d'une étude de demeurer non-fumeurs, tandis que ceux qui n'avaient pas vapoté pour arrêter de fumer, qui s'étaient contentés des timbres de nicotine, ouais, c'est seulement 9% d'entre eux qui ont réussi. Donc, il y en a 1 sur 10 qui réussit à arrêter de fumer avec les timbres de nicotine. Il y en a 2 sur 10 qui réussissent à arrêter de fumer avec le vapotage.
Est-ce qu'on est très surpris? T'sais, en même temps, il y a le geste qui est conservé avec le vapotage, fait que probablement que c'est une rupture qui est moins agressive pour les fumeurs.
Exact. Alors, il dit, le vapotage, pour quelqu'un qui veut arrêter de fumer, c'est quand même une aide substantielle et n'importe quoi. Il dit, on ne sait pas si le vapotage est très, très, très nocif, un peu nocif, mais il dit, n'importe quoi ne peut pas être aussi nocif que la cigarette. Donc, mieux vaut vapoter que de fumer.
Ouais. Mais c'est là que les études, ouais, c'est ça.
Le problème, c'est ceux qui fument pas. Comme, par exemple, les jeunes. Pourquoi c'est toujours les jeunes qui font des conneries, hein? En tout cas, c'est comme le pot. Le pot est bon, est pas mauvais. Consommé de façon modérée, n'est pas mauvais pour des adultes. Il est mauvais pour les jeunes en bas de 25 ans.
Mais c'est malheureusement quand t'es jeune que tu repousses les limites, que tu cherches, que tu veux avoir l'air hot.
C'est ça. Alors là, ce qu'on démontre, c'est que les jeunes qui vapotent ont 3,5 fois plus de chances de commencer à fumer que ceux qui ne vapotent pas. Donc, si ton jeune vapote, t'as 3,5 fois plus de chances qu'il va commencer à fumer.
Une porte d'entrée.
C'est devenu... Il y a 3 fois plus de vapoteurs qui ont commencé à fumer parmi... Il y a 3 fois plus de jeunes qui ont commencé à fumer parmi les vapoteurs que parmi ceux qui ne vapotaient pas, d'après l'étude.
Je les considère déjà fumeurs, moi, les vapoteurs, parce que tu peux ajouter de la nicotine déjà à ta vapoteuse.
Oui.
Ils sont fumeurs. Je comprends que c'est pas la cigarette en tant que telle, mais il y a de la nicotine.
Et ça, c'est... Ben, pas toujours. Non, t'es pas obligé d'en avoir. Sauf que les empoisonneurs professionnels, et je soupçonne que des compagnies de tabac soient derrière ça, évidemment, là... les empoisonneurs professionnels mettent effectivement de la nicotine, oui. Et Santé Canada ne limite pas suffisamment. Il y a une limite, là, mais qui est tellement élevée que ça peut te rendre malade.
Puis je parle à travers mon chapeau, là, mais tu dis pas toujours. J'aimerais savoir combien de personnes utilisent une vapoteuse avec simplement le goût de la fraise. Là. À proportion, là. Ouais. Mettons que tu compares les proportions.
Moi, je connais quelqu'un qui a travaillé dans une entreprise de vapotage, là, puis il inventait des recettes à partir de petites fioles en arrière.
Des recettes pour que ça coûte.
Il s'est improvisé chimiste.
Oui.
Ah, oui.
Oui. Puis chaque employé avait comme ça sa petite recette.
OK. Ouh.
J'ose espérer que c'est devenu plus rigoureux maintenant.
Penses-tu?
Mais c'était qu'il y a quand même 4 ans, là, quand le vapotage commençait, 4-5 ans, là, quand ça commençait. Mais c'est ni Dieu ni diable. Pour ceux qui arrêtent de fumer, là, c'est une bonne idée de vapoter. Pour ceux qui ont jamais fumé, c'est une catastrophe de vapoter.
Ben, c'est comme les cigares. Quand nous, on était jeunes, là, ce qui était à la mode, c'est les cigares à saveur. Là. T'en avais au raisin, t'en avais à vanille, t'en avais à cerise. Puis même, je crois qu'elles ne sont plus vendues comme ça. Tu dois t'acheter une capsule qui est à côté, finalement. Mais c'est ça qui a engrangé, qui a fait en sorte que bien des jeunes fument.
Alors, il faut comprendre qu'il y a une industrie qui veut absolument que les jeunes fument. Les jeunes, êtes-vous assez cons pour faire ce que l'industrie veut que vous fassiez? Êtes-vous assez cons pour ça? Vous allez marcher pour sauver le climat. Êtes-vous assez cons pour tomber dans le piège d'une industrie qui veut vous faire polluer vos propres poumons? Je sais pas, là. Mais...
Pas bien de réflexion, normalement, quand t'es à cet âge-là, là.
Ben,
tu réfléchis pas à pourquoi tu fumes, tu le fais parce que tu vas avoir l'air cool. Puis la question que je me pose, moi, parce que souvent, on a eu le débat avec d'autres jeunes, là, mettons, de la station. Moi, c'était vraiment pas bien vu fumer à mon école secondaire. C'est toujours ceux qui étaient un peu bum, qui étaient à l'écart. Et pour d'autres, même génération, même moment, c'était vraiment les superstars de la place, là. Ouais. Ceux qui fumaient, c'était les populaires.
Il y a une école secondaire où sont allés mes fils, où tu avais le choix. Tu avais trois choix devant toi. Tu faisais partie des nerds, des gens qui gamaient sur l'heure du midi, ouais, etc. Puis qui faisaient des trucs, là, jouer à Magic, des trucs.
Les cartes magiques, ouais.
Tu faisais partie des sportifs. Là, ça allait bien. Puis quand tu faisais partie de rien de tout ça, tu te ramassais sur le trottoir avec les fumeurs. Puis tant qu'à être là, ben, tu fumais.
Mmh. Ah oui. Ah oui, puis moi je me souviens, j'allais au privé, puis t'en avais pas ben là, des fumeurs, mais c'est toujours c'est une forme de sentiment d'appartenance que ces gens-là se donnaient, puis tu sais, la raison pour laquelle certains effectivement se mettaient à fumer, c'était que oui, eux se trouvaient cool, puis la gang avec laquelle ils étaient se trouvait cool, mais il y avait du monde avec qui être.
Mais quand t'es jeune, tu veux te fédérer. En fait, tous les jeunes sont fédéralistes. Ils veulent se fédérer.
C'est vrai, ça.
C'est vrai. Oh oui, oh oui. Ils se fédèrent avec les sportifs, ils se fédèrent autour d'un jeu, ils se fédèrent autour de la cigarette. Mm-hmm. Ou du vapotage dans ce cas-ci.
C'est trois clics, je veux dire, tu ramènes ça à trois clics hyper, hyper, hyper clairs. Pour moi, il y en avait 150 000 des clics, là.
Oui, oui. Il y en a plus que ça. Mais les grandes familles sont celles-là, là.
Les grandes familles. Ah, oh, ouais, OK, non. Non, nous, c'était pas ça. Puis même que la famille des gays qui était assez petite, je te dirais.
Hey, les trois familles cohabitent, là, je veux dire. Mais c'est vrai qu'au final, t'as toujours des dénominateurs communs. T'as toujours des troncs communs qui...
Mais c'est impressionnant à quel point le secondaire, c'est la jungle. Hein? Quand tu regardes ça,
c'est épouvantable. Ouais. Moi, je souhaite qu'un ministre de l'Éducation, à un moment donné, prenne l'autobus scolaire, puis rentre à l'école, puis fasse le parcours que font les jeunes du secondaire à l'école. Il n'y a rien, rien, rien dans les installations, dans la façon de faire, qui pousse les jeunes au respect les uns des autres. Il n'y a rien qui les pousse non plus à se concentrer sur leurs études.
Mais là, ils sont deux.
Ils sont... moi, j'ai souvent été attendre mes fils dans la grande salle ou des casiers, tu sais.
Pardon?
Oui.
La honte?
Non, non.
Mais voyons, tu te faisais à l'intérieur dans la grande salle.
Ça leur évitait de prendre l'autobus quand j'étais à Jonquière.
Ben oui, mais tu restes dans ton auto, tu dis je suis arrivé.
Non, mais il n'y avait pas de téléphone cellulaire. Il n'était pas question qu'ils aient des téléphones cellulaires.
Mais tu dis à 16h15, je vais être à tel endroit.
Non, mais je ne savais jamais d'avance. Alors, si je traîne au bureau, ça se peut que je vienne te chercher. Fait que là, je rentrais.
Inacceptable.
J'ai trouvé ça absolument fascinant. Parce que quand tu rentres là, le vacarme aussitôt que la meute arrive. Puis là, ils arrivent 1000 en même temps. Ils sont deux par casier. Il y en a qui prennent l'autobus. Il y en a qui prennent pas l'autobus. Ça se bardasse dans les casiers parce que ils ont...
Puis, c'est faut que ça soit rapide, là.
Deux par casier. Mm-hmm. C'est évident qu'ils sont tous en chouclac ou en espadrille. Parce qu'ils n'ont pas de place pour mettre des bottes là-dedans. Le sportif de la gang, il n'a pas de place pour mettre son snatchol. Puis de toute façon, son snatchol, il va puer là-dedans. Ils n'ont pas de place pour mettre les boîtes à lunch. Ils transportent leur monde sur les épaules. C'est aucune industrie ne pourrait traiter ses employés comme on traite les jeunes dans les écoles secondaires.
Je suis d'accord que tous les problèmes que tu viens de relever existent pour vrai. Là.
Chez Rio Tinto Alcan, là, les gars, quand ils rentraient travailler, il y avait deux casiers par travailleurs. Et dans la salle de casier, même s'il y avait plus de casiers que ça, on s'organisait pour qu'il n'y ait jamais plus que 75 travailleurs en même temps.
Mmh. Il y avait
qu'ils soient tous capables de s'asseoir. Non, mais les jeunes, c'est ta richesse. Tu peux pas les traiter comme du bétail puis t'attendre à ce qu'ils se comportent pas comme une meute.
Mais moi, je sais que ma collègue de casier, il y a certains livres qu'elle n'apportait pas dans sa journée. Puis normalement, tu l'as, puis c'est bon pour tes études, là. Elle ne les apportait pas parce qu'il n'y avait plus de place dans
le
casier.
C'est ça.
Fait que ça, pour moi, c'est stupide. Puis si j'étais directrice d'école, la première chose que je veux, c'est que les élèves apportent leur matériel scolaire. Ouais. Mais elle choisissait, ben non, je ne vais pas l'apporter. Puis de toute manière, à longueur de journée, de trimballer ces livres-là dans mon sac, c'est beaucoup trop lourd. Il y a ça aussi.
Oui, c'est on, je te dis, il n'y a pas un employeur qui pourrait traiter ses travailleurs comme on traite les jeunes au secondaire. On les traite comme du bétail, ils réagissent comme une meute.
Puis moi, il y a un aspect dont je trouve qu'on n'a jamais assez abordé dans les écoles secondaires, puis on n'en parle jamais. Mais tu sais, aujourd'hui, on parle beaucoup d'ergonomie, puis de l'importance, tu sais, des lieux qui motivent à travailler. Mais moi, j'ai toujours trouvé que les lieux inspiraient quelque chose.
Ouais.
Et les écoles secondaires sont toutes sans exception profondément laides et n'inspirent à absolument rien. Ouais. T'as pas le goût de... Tu sais, c'est du béton. Puis honnêtement, l'ambiance que t'as, c'est une ambiance de prison dans une école secondaire.
C'est des usines à enfants. Ouais, ce sont des usines.
Est-ce qu'on s'en rend vraiment compte quand on est là-dedans?
Non, on s'en rend pas compte. Par contre, il y a des comportements, notamment de l'intimidation, ce qu'on appelle du bullying en bon français, de l'intimidation qui est générée par cette atmosphère-là. Ou si tu ouvres pas les coudes, t'auras pas de place. T'es obligé d'ouvrir les coudes pour avoir de la place.
Regardez des fois...
Y a-t-il... Oui, excusez.
Non, mais j'allais dire, regardez des fois les écoles. Moi, j'aime ça regarder les écoles en Finlande, en Suède. Hey, tu vois ça, là? C'est beau, là. Moi, je me dis, j'aurais le goût le matin d'aller là-bas tellement c'est beau, puis ça te motive, juste par ce que ça dégage comme ambiance.
Tu sais, les gogogues du ministère de l'Éducation, là, ils nous ont bassiné les oreilles quand ils ont fait la fameuse réforme en 98, là, en disant c'est la Finlande. Ils ont oublié de copier 2-3 affaires en Finlande. Notamment, les écoles n'ont pas plus que 500 élèves. Et notamment, on commence l'école à 7 ans en Finlande. Là, ils veulent les rentrer à 4 ans.
Ouais.
Bon, mais Pascal, as-tu d'autres choses?
Mais je voudrais quand même 25-2-6 là, que les auditeurs nous en parlent, parce que je me suis un peu absentée de ce segment-là. J'ai tellement rien vécu de tout ce que tu nommais là. En passant, Michel, dis-moi, j'aurais aimé ça que Myriam vienne me chercher comme ça à l'école, mais sachez, moi, du coup, je vous conseille pas de faire comme Myriam si vous êtes parent avec vos enfants. Vraiment. Ça aurait été la honte de ma vie.
La honte de Pascal.
La honte de tes parents?
J'ai pas honte du tout de mes parents. À 16 ans, je veux pas, par contre, que mon parent soit là en train d'attendre les bras croisés. Je suis venue te chercher. Mais non.
Je jasais avec les surveillants. Puis,
Non, c'est encore pire.
Mais là.
Myriam, une chance que t'es petite, tu sais, qu'on te voyait pas trop dans la foule. Moi, si mon père arrive là-dedans, là, à grandeur qu'il y a, puis le monde catch que c'est ton
Pourquoi
père qui est venu
gênée?
Chercher dans le gars. Ben, parce que, à 16 ans, tu vas avoir l'air cool au-dessus de tes moyens. Tu dis, ben non, j'ai un scooter. Je retourne à la maison.
Il n'y avait pas de scooter. Il y avait 30 minutes de bus infernal à faire.
C'est un super geste. Je suis certaine qu'ils ont préféré aller dans l'auto avec toi. C'est juste de l'attendre dans l'agora. On peut s'en reparler.
Mais s'ils savent pas que je vais arriver, j'ai pas le choix. Faut que je sois devant leur casier quand ils arrivent. Sinon, je vais les échapper.
J'aurais préféré la bus, moi, je pense.
Marcher, oui.
Non, pas la run qu'ils faisaient. C'était pas drôle, la run qu'ils faisaient.
Un run de lait, hein?
Ah, c'était épouvantable. Puis ils passaient par un rang complètement défoncé. J'ai pris une fois cet autobus-là.
Pourquoi, en plus, t'étais rendu dans l'autobus, Myriam?
Pour accompagner son fils.
C'est de pire en pire.
Non, parce qu'à un moment donné, on, pour sauver l'école du village, on avait réservé un autobus scolaire. Puis, il avait fait le même chemin que les enfants pour ramasser les parents en chemin, pour aller manifester à la commission, au conseil des commissaires.
Okay.
C'est comme ça que je me suis retrouvée dans l'autobus. Les enfants n'étaient pas là.
OK, avec d'autres parents.
Avec d'autres parents. Mais c'est épouvantable comme ça brasse.
Ah, on
aime
fun,
ça, nous.
Là.
On se met en arrière.
Voyons, c'est là que j'étais.
Ben, c'est ça qui est le fun.
J'ai volé. J'ai dit, non.
Mais tout de suite.
Ben, oui.
Bon. OK, autre chose.
Oui, dans l'actualité, mais on parle beaucoup de la grève de la CEPAC parce que les chasseurs doivent s'attendre à moins de services. C'est la grosse période de chasse qui commence. Je sais que c'est le bonheur de tellement de gens. Puis de se retrouver, tu sais, entre amis, d'aller dans le bois. C'est... Bon, malheureusement, il y a probablement des services qui vont être coupés. Là, faut savoir que si dans les 5 prochains jours, vous aviez besoin ou vous aviez acheté un forfait avec guide, des expéditions de chasse, des droits aussi avec des services alimentaires, ça va être certainement brouillé là. Vous n'aurez pas ces services là, mais vous allez quand même être dédommagé par la CEPAC. Sauf que votre voyage de chasse
va être parce que là c'est une réjouissance d'aller à la chasse en gang là. C'est le remboursement ne vient pas compenser.
Ah non, mais au moins tu perds pas ton argent. La seule chose c'est que à quel moment tu vas pouvoir reprendre tes vacances avec tous tes amis pour y aller. Bon, ça c'est vraiment plate pour ceux qui veulent aller à la chasse. Soyez juste aux aguets, vérifiez vos forfaits, vérifiez s'ils vont être honorés jusqu'à jeudi parce que effectivement là c'est paralysé.
C'est drôle, c'est un conflit qui avait été réglé cet été. Tu sais, ils ont menacé de faire la grève juste avant la semaine de la construction, alors qu'il y a plein de petites familles qui avaient réservé des campings dans les parcs nationaux, etc. Puis, ça s'est réglé. Sauf que l'entente de principe a été rejetée à 60% par les employés.
Oui, dernièrement. Mais en même temps, tu sais, quand on parle des revendications des employés de la SAC, là, de la SAQ, là, Oh, oui, moi, je trouve que si la SAQ sont pas contents parce qu'ils ont du temps partiel, mais que c'est affiché qu'ils vont avoir du temps partiel, puis là, ils disent, je suis pas capable de me payer une maison parce que je fais pas assez d'heures, j'ai un peu de difficulté, moi, avec cette revendication-là. Ouais. Par contre, eux, je trouve quand même ça légitime de dire, regarde, on a des heures supplémentaires qui n'ont pas été payées. On a également mon manque de personnel et il y a aussi des augmentations qui ne suivent pas l'inflation.
Ouais, l'inflation, ouais. C'est un minimum. Puis je pense que c'est correct que ton salaire suive l'inflation. Par contre, il y a des augmentations d'échelon aussi. Tu sais, dans une négociation, c'est toujours compliqué. Ils veulent jamais négocier sur la place publique, hein.
Oui.
As-tu remarqué? Ils veulent jamais négocier sur la place publique. Pourtant, c'est le public qui paye leur salaire.
Donc, moi, aux
heures, et moi, je pense qu'au contraire, oui. Si on veut accélérer, parce qu'on a toujours les mêmes numéros avec la façon de négocier actuellement. La partie patronale paye des avocats à temps plein, qui sont pas pressés de régler parce qu'ils sont payés grassement pour négocier, donc il y a pas d'urgence. La partie syndicale paye des avocats à temps plein, puis là on monte d'un cran, puis là on déclenche une grève, puis là on règle en une nuit ce qu'on n'a pas été capable de régler en 2 ans de négociation. Puis c'est moi je me dis, garde dans les séances de négociation, mettez une webcam puis diffusez ça live. Fait que l'avocat que je paye moi comme partie patronale, parce que vous puis moi,
tout
on
monde,
est de la partie patronale. S'ils se pognent le beigne au lieu de discuter, là, on va le voir.
Puis c'est plate parce que je suis totalement d'accord avec la problématique de la machine que t'exposes en ce moment, Myriam. Puis en même temps, je suis vraiment divisée parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'empathie pour les employés qui, eux, la seule chose qu'ils souhaitent, c'est que leurs heures supplémentaires soient payées. Ils ont travaillé, ont fait des heures sup, payez-nous.
Oui, donc, mais ça, c'est un grief qui règle ça.
Mais ils sont entre l'arbre et l'écorce à chaque fois pour des revendications qui sont légitimes.
Pas une négociation collective qui règle les heures supplémentaires. C'est un grief.
Mais ils n'ont pas le choix.
Ben, c'est un grief qui règle ça.
Mais, je sais, mais ils n'ont pas le choix. La machine étant ce qu'elle est, oui, on critique la machine, mais il ne faut pas embarquer les employés qui veulent certains avantages puis ce qui en découle.
Le problème des négociations dans le secteur public, en général, c'est que ce sont des professionnels de la négo et non pas des professionnels du terrain. Souvent, une fois que c'est réglé, tu te dis, hey, ils n'ont pas réglé ça. Ils n'ont pas réglé ce problème-là. Ils n'ont pas... Hey! Parce que eux autres, ils ont leur propre logique, leur propre rythme, leur budget, leurs affaires. Puis, ni le syndicat, ni la partie patronale ne sont pressés de régler. Les employés le sont, mais pas les parties qui négocient.
Mais c'est pour ça que je te dis la machine,
c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut changer la façon de négocier complètement.
Absolument, sauf qu'il ne faut pas quand même mettre dans le même panier les employés. Très important.
Il faut pas mettre... Ben,
parce qu'eux, ils ont le droit de revendiquer ce qui leur revient,
oui.
Selon moi. Puis souvent, on va aller les critiquer.
Ben, c'est-à-dire que, oui, mais je pense qu'ils doivent avoir une augmentation conforme au coût de la vie pour que pour pas s'appauvrir. Bon. Ceci dit, ils ont quand même d'autres avantages marginaux dans la fonction publique qui sont pas mineurs.
Oui, mais là, on parle d'heures supplémentaires. C'est pas ce que je te dis. Si tu compares...
Mais les heures supplémentaires, Pascal... S'ils ne sont pas payés, c'est un grief qui règle ça. C'est pas la convention collective.
Mais depuis tantôt, je suis d'accord avec toi là-dessus. Ce que je dis, c'est qu'il faut pas manquer d'empathie pour ces personnes-là. Puis quand je compare ce que eux souhaitent à la CEPAC avec ce que les employés de la SAQ souhaitaient, je suis capable de faire la différence. Puis dire, SAQ tirait pas mal la corde. Du côté de la CEPAC, c'est juste normal, c'est ce qui leur est dû.
Je suis pas sûre. Je connais pas assez le détail de leurs négociations pour ça. Et j'ai beaucoup de difficultés à prendre pour acquis que parce qu'il y a une grève, ces grévistes ont forcément raison.
Non, pas de faire la grève, mais ils n'ont pas le choix. En ce moment, là, c'est ce qui s'expose à eux, sont entre l'arbre et l'écorce. Ils veulent leur dû, mais en même temps, c'est la seule manière dont ils vont peut-être pouvoir y toucher, malgré qu'ils critiquent eux aussi la machine.
Moi, j'aimais beaucoup la formule qui avait été adoptée, je pense, c'est en Nouvelle-Zélande, où quand un conflit ne vient pas à bout de se régler, chacune des deux parties est obligée de déposer la meilleure convention collective la convention collective la plus réaliste possible. Et il y a un arbitre qui doit choisir une des deux. Il peut pas faire l'amalgame des deux.
Okay.
Donc, c'est le plus raisonnable qui gagne.
Hey, ils doivent-tu se forcer pour mettre ça à leur avantage, mais que ça ait du bon sens?
C'est ça. C'est l'intérêt là, de la chose, c'est que c'est le plus raisonnable qui gagne.
Ça, c'est intéressant.
Et la décision de l'arbitre est définitive. C'est comme ça que ça se fait.
Puis cet arbitre-là est engagé par?
Ben, ce sont des arbitres professionnels.
Okay.
Okay? Mais c'est sûr que quelque part, ils sont aussi payés par les gouvernements.
Ben,
mais c'est la même chose dans notre système d'arbitrage.
Je sais, mais c'est sûr qu'il y aura des déboires quand même.
Actuellement, les arbitres sont généralement plus favorables aux syndicats qu'aux employeurs au Québec. Parce que il y a trois grandes centrales syndicales. Et que donc, si tu te fais, si comme arbitre, tu te fais sortir des conventions collectives, par exemple de la CSN, tu viens de perdre la tiers de ta clientèle.
Je t'annais tout ça. on est dans le schnout, Myriam. Ouais.
Alexis, t'avais-tu d'autres choses?
Allez, Montréal! Allez, Montréal! Allez, Montréal!
Ça, allez, Montréal! Depuis quand, allez, Montréal?
Ben, écoute.
Traître!
Non, et depuis que la seule équipe de hockey professionnelle qu'on a, c'est le Canadien de Montréal, là, on n'a pas trop le choix de se rabattre sur le Canadien, là, bien que on aimerait bien encourager les Nordiques. La réalité, c'est qu'ils sont pas là et ils seront pas là encore pour un certain temps. Le Canadien de Montréal est en train de faire rêver, Myriam. 4-4, parfait en match préparatoire. Et emballons-nous pas trop vite, là. Et c'est vrai qu'ils ont été bons, ils sont bien débrouillés, mais hier, 4-0 face aux Sénateurs d'Ottawa. Faut pas oublier que les Sénateurs d'Ottawa risquent d'être la pire équipe de la Ligue nationale de hockey cette année. Par contre, ce qu'il faut donner aux Canadiens, c'est le fait qu'ils ont réussi à compter 3 buts en 3 opportunités en avantage numérique. Et ça, c'est probablement le seul point réaliste que je trouve intéressant dans le match d'hier. Parce que le Canadien a été très mauvais l'an dernier en avantage numérique. Et cette année, notamment, ça va être intéressant de voir si le Canadien va être capable de se rattraper à ce niveau-là. Parce que c'est beau avoir une équipe, si t'es pas capable de profiter de tes avantages numériques, ça avancera pas. Et Jeff Petrie a été très bon hier, notamment à cet avantage lors de l'avantage numérique. Il y a eu un but, une passe là-dedans. Mais là, il y en a qui sont en train de compliquer les calculs du Canadien, là, parce qu'il y a des jeunes qui sont en train de pousser et il y a des vieux qui sont en train de regarder ça et de se dire « Ouh, ça, la parade, elle passe assez rapidement, là. »
Oui, mais c'est des matchs préparatoires. C'est des équipes B contre l'équipe B, là.
Oui, oui, mais tu sais, quand même, t'as certains joueurs établis de la Ligue nationale, là. Je sais que la compétition, c'est pas pareil, non, mais tu sais, t'as toujours une surprise. L'an dernier, c'était Kotkaniemi. Le Kotkaniemi, ça va mal. C'est sûr qu'on lui donne pas des très bons joueurs avec lui. Mais là, cette année, c'est Nick Suzuki, là, qui est en train de faire rêver bien du monde. Et d'ailleurs, Suzuki, ce qui est intéressant avec lui, on l'a vu hier avec Thomas Tatar. Mais oublions pas que ces deux joueurs-là, là, Suzuki et Tatar en même temps, c'est eux qu'on a eu parce qu'on a shippé Max Pacioretty à Las Vegas et que l'an dernier, tout le monde disait « Hey, wow, pour Tatar, c'est bon. » Mais le gros, là, dans cette transaction-là, c'était Nick Suzuki et il s'en vient éventuellement. Là. Ça sera pas cette année, ça sera l'an prochain, on verra, mais dans son cas, ça va être intéressant de voir s'il va faire l'équipe cette année, parce que là, ils ont déjà coupé 14 joueurs hier, le Canadien. De plus en plus, il se rapproche vers une formation complète, puisque là, le camp du Rocket commence la semaine prochaine. Mais honnêtement, c'est quand même encourageant de voir au moins le Canadien de Montréal gagner. Déjà, ça, c'est bon.
On a perdu cette habitude-là, hein?
Oh boy, ça m'excite pas du tout.
Puis il y a le Rouge et Or qui joue aussi tantôt. Hein?
Le Rouge et Or joue tantôt. D'ailleurs, là-dessus, le Rouge et Or, c'est même pas Samuel Chénard qui a le départ. Hein? Ça, c'est le 4e match de l'équipe. Chénard avait eu les 3 premiers départs. C'est Thomas Bolduc qui va commencer le match cet après-midi devant son père. André Bolduc, qui est dans le personnel d'entraîneur des Alouettes de Montréal. Et les Alouettes étaient à Montréal hier, donc son père devrait être ici là, pour le match cet après-midi à 13h au Stade TELUS.
Pour merci. Conclure, Myriam, à savoir si oui ou non on va chercher nos enfants à l'école dans l'Agora, on nous écrit « Plutôt faire 10 km à pied pour revenir que d'être apporté par son parent ». Il y a quand même Yannick qui est fin, qui dit « Si j'avais eu une maman comme Myriam Segal, j'aurais été extrêmement fière qu'elle vienne me chercher à l'école ».
Mais honnêtement, là, je leur ai déjà demandé, préférez-vous rentrer en autobus ou quand j'ai une chance, je m'en vais vous chercher? Ils m'ont dit d'aller chercher.
C'est correct, je me mêle juste pas de mes affaires.
Tout. surtout que j'en avais 2 dans cette polyvalente-là.
T'es ramassé.
Oui, c'est ça.
Le convoi arrivé.
C'est ça. Il est 7h29.
Que Québec se lève.
Que Québec se lève.
De retour dans quelques instants.
FM 93.
Nous l'avons vécu avec vous sur les ondes du FM.